Nous sommes en classe de 4e au collège Jeanne d'Arc.
Bonjour, moi c'est Nina, j'ai 14 ans et j'adore la danse.
Bonjour, moi c'est Alistair, j'ai 12 ans et j'adore les jeux vidéo et je fais du karaté.
Dans cette émission, vous allez pouvoir écouter...
Une chronique sur les dinosaures.
Une chronique sur Taylor Swift, la chanteuse préférée de Layla. Puis une chronique sur la déforestation, car c'est une cause qui me tient à cœur.
Et un petit bonus, une lecture à deux de la nouvelle fantastique La main décorchée de Maupassant.
Ça va être chouette, alors restez avec nous. Mais tout de suite, on écoute Shameless de Camila Cabello.
Don't speak, no don't try. It's been a secret for the longest time. Don't run, no don't hide. Been running from it for the longest time. So many mornings I woke up confused in my dreams. I do anything I want to you. My emotions are naked, they're taking me out of my mind. Right now I'm shameless, screaming my lungs out for you. Not afraid to face it. I need you more than I want to, need you more than I want to. Show me.
C'était Shameless de Camila Cabello sur Globule Radio, une chanson qui met l'ambiance.
Tout de suite, la chronique la plus vieille du monde. J'imagine que vous vous demandez de quoi on va parler. Je vous laisse tout de suite avec Alistair.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la signification du mot dinosaure. À quelle époque a-t-il été inventé, par qui et pourquoi? C'est en 1842 que le zoologiste et paléontologue anglais Richard Owen invente le mot dinosaure, du grec ancien deinos, terrible ou terriblement grand, et sauros qui signifie lézard, pour rassembler ses découvertes de grands reptiles fossiles qui attisaient la curiosité des scientifiques. Bien que le reste connu à l'époque n'appartiennent alors qu'à trois groupes, Megalosaurus, Iguanodon, Ilaeosaurus, cela n'empêche pas le scientifique d'y voir des caractères communs, comme les membres érigés, et ainsi de justifier leur nouvelle dénomination de lézard géant.
Mais qui est Richard Owen ?
Richard Owen est un zoologiste, spécialiste en anatomie comparée et paléontologue britannique. L'étymologie même du mot dinosaure, telle qu'elle fut prononcée par Owen, nous renvoie à cette notion de gigantisme, puisque « dinosaure » signifie littéralement « lézard terriblement grand », et non pas juste « lézard terrible ». Comme on le voit écrit trop souvent et comme bon nombre de personnes amatrices de sensations fortes l'imaginent, en se référant aux dents tranchantes de Tyrannosaurus ou à la griffe acérée du deuxième doigt de pied du Vélociraptor. Ici même, figurez-vous, près de Chamonix-Mont-Blanc, au-dessus du barrage des Maussons, il est possible d'observer environ 800 traces des ancêtres des dinosaures. Elles ont été découvertes en 1976 suite à la fonte d'un névé. Avec le réchauffement climatique, nous pourrions à l'avenir découvrir d'autres empreintes de pas et même, pourquoi pas, de nouveaux fossiles.
Eh bien, merci pour cette chronique, Alistair. C'était très intéressant. On vous laisse à présent avec la chanson « L'aventurier » de Indochine.
Une super chanson de Indochine.
Et maintenant, la chronique de Layla sur une artiste qu'elle admire. Mais malheureusement, elle ne pourra pas être là. D'ailleurs, on lui fait plein de coucou. Alors ce sera Alistair qui la lira à sa place.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une chronique sur Taylor Swift. Taylor est une chanteuse américaine. Elle a 34 ans et elle est née le 13 décembre 1989. La date de son anniversaire vous parle peut-être, car 1989 est un album de Taylor Swift qui a été publié le 27 octobre 2014.
Ah oui, ça me dit quelque chose. Dis-moi, elle a combien d'albums ?
Bonne question. Alors, Taylor Swift a 10 albums, mais bientôt elle en aura 11. Elle a annoncé au Grammys 2024 qu'elle va publier un nouvel album qui s'appelle « Le département des poètes torturés ». L'album va sortir le 19 avril 2024.
C'est déjà sorti. C'est déjà sorti.
Ah oui. L'album est sorti le 19 avril 2024. Le premier album qu'elle a publié s'appelle Taylor Swift. Elle l'a écrit à l'âge de 16 ans. Elle a 9 autres albums, Lover, Midnight, Folklore, Evermore, 1989, Speak Now, Red et... Fearless et Réputation.
Waouh, c'est beaucoup d'albums ça. Et elle fait des concerts pour tous ses albums ?
Non, en ce moment, Taylor Swift est en train de faire le Eras Tour. L'Eras Tour est la sixième tournée de concerts en cours de Taylor Swift. Composée de 152 spectacles sur 5 continents, la tournée a débuté le 17 mars 2023 à Glendale, en Arizona, aux États-Unis. Et devrait se terminer le 9 décembre 2024 à Vancouver, au Canada. Avec un impact culturel mondial, l'Eras Tour est devenue la première tournée à dépasser le milliard de dollars de revenus, ce qui en fait la tournée la plus rentable de tous les temps. Taylor Swift a gagné 4,1 millions de dollars grâce à la tournée des époques, film inclus. Son tout premier concert a eu lieu à Los Angeles, au Stade Sophie, à Inglewood, aux États-Unis. Son premier concert de la tournée à Los Angeles a été filmé en direct et est sorti au cinéma. Et désormais sur Disney+. C'est seulement 15 minutes de moins que le vrai spectacle. Taylor Swift est née le 13 décembre dans l'ouest de la Pennsylvanie. Les parents de Taylor sont Andrea et Scott Swift. Taylor a un frère qui s'appelle Austin Swift. Il est acteur. Elle a aussi une grand-mère nommée Marjorie. Elle était chanteuse d'opéra et Taylor a écrit une chanson sur elle dans son album Evermore après son décès.
Merci pour cette fabuleuse chronique, Layla et Alistair. Je vais maintenant vous présenter la musique River de Bishop Briggs que j'ai choisie car elle donne envie de danser. Like a river, like a river.
Merci à vous deux, en raison de la qualité de l'enregistrement de Bishop Briggs, dans notre ordinateur au moins, je vous propose de découvrir l'heure de sa chanson Dance de Julia Stone. Here you go guys, profitez bien.
This is our losing hand. I always knew you were a gambling man. And some ties are too strong to break. But after tonight, we'll shoot the moon and then we'll walk away. It's so hard to love you. It's so hard to love you. It's so hard to love you. Why don't we dance?
Merci Kirsten pour cette musique, même si elle donnait pas beaucoup assez d'ambiance que River de Bishop Briggs. Mais bon, c'est pas grave, c'était bien quand même.
Et maintenant, la chronique de Nina sur la déforestation.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la déforestation.
Pourquoi parler de ce sujet ?
Car c'est très important et grave et que ça a un réel impact sur la Terre.
Quelle est l'importance de la déforestation ?
La déforestation est une cause très importante et grave car elle a un réel impact sur la Terre, la nature, l'environnement et tout ce qui l'entoure.
Combien d'arbres en moyenne sont coupés en une année ?
Il y a environ 15,3 milliards d'arbres qui sont coupés en une année dans le monde et particulièrement dans les zones tropicales, c'est-à-dire comme l'Asie du Sud-Est, en Indonésie, ou l'Amazonie, au Brésil et l'Afrique.
En quoi est-ce si grave de couper des arbres ?
Il est grave de couper des arbres puisque nous avons besoin d'eux, car nous dépendons de tous les végétaux capables de produire la photosynthèse qui produit de l'oxygène que nous utilisons pour vivre et donc pour respirer. Imaginons qu'il n'y avait plus aucun arbre sur la Terre. Elle pourrait toujours continuer à exister, mais sans les habitants qui l'occupent, comme les humains, les animaux, etc. Puisque les arbres produisent la plus grande partie de l'oxygène que les gens et la vie naturelle utilisent pour vivre, celle-ci serait invivable pour les êtres humains et les animaux.
Quelles sont les raisons de la déforestation ?
La déforestation est la conséquence d'un changement d'usage des sols forestiers permanent. Dans la grande majorité des cas, les forêts sont coupées pour la mise en place de travaux agricoles, pour l'expansion urbaine, le développement d'infrastructures et l'exploitation minière. 73% de la déforestation est liée aux activités agricoles. Conclusion, la déforestation est un gros problème qui se poursuit à un rythme alarmant et qui a un grave impact sur la planète Terre.
Merci pour cette magnifique chronique et maintenant Bad Guy de Billie Eilish.
Un super choix de Layla, j'aime beaucoup cette chanson. Et maintenant, la chronique de Greta, qui est malheureusement absente aujourd'hui, donc Alistair va la lire à sa place.
Devenir aveugle, ne plus pouvoir parler, devenir sourd et mourir pour des cosmétiques, seriez-vous capable de prendre ces risques ? C'est pourtant ce que les animaux subissent lors de tests de produits cosmétiques à chaque étape de leur fabrication.
Que sont les tests des produits sur les animaux ?
Ces tests ont pour but de vérifier si un produit peut provoquer des irritations ou réactions chimiques sur la peau.
Comment s'y prennent-ils ?
L'expérimentation animale sur les cosmétiques est très cruelle. Pour exemple, pour tester une crème pour la peau, on va d'abord raser l'animal, appliquer ensuite une dose concentrée de produit sur la peau et laisser agir le produit pendant plusieurs jours. Pour un cosmétique qui risque d'entrer en contact avec les yeux de l'animal sans anesthésique, lors de cette procédure, on utilise principalement le lapin, car celui-ci ne sécrète pas de larmes. Il ne peut donc pas expulser le produit.
Quels sont les animaux sur lesquels on fait ces tests ?
Les animaux utilisés lors de ces tests sont les souris, les rats, les hamsters et les lapins.
Est-ce légal de faire ces tests ?
Depuis 2004, dans l'Union européenne, les tests sur les animaux sont interdits, et depuis 2009, pour les ingrédients qui les composent aussi. Plus de 40 pays interdisent les tests sur les animaux, comme par exemple la Corée du Sud, l'Inde, la Suisse, la Norvège, le Canada, et ainsi de suite. Les pays dans lesquels les tests sur les animaux sont légaux, personne qui intervient en demandant dans quel pays c'est légal. Certains pays exigent certains tests sur les animaux pour cosmétiques, comme par exemple la Chine, la Russie, trois petits points. Ces tests sont très dangereux pour les cobayes. Cela peut leur infliger des blessures et de graves traumatismes. Les blessures peuvent partir d'une simple irritation jusqu'à la perforation du globe oculaire. Les animaux qui survivent à ces expériences sont généralement tués par la suite. Ce sujet m'a beaucoup touchée et je voulais approfondir le domaine pour essayer de montrer et faire comprendre aux gens que les animaux sont encore très maltraités et que cela peut aller très loin.
Merci pour cette chronique, Greta et Alistair. Ça m'a beaucoup touchée.
Maintenant, moi et mon groupe The Drama va vous lire la nouvelle de Maupassant, La main décorchée, une courte histoire.
Il y a 8 mois environ, un de mes amis, Louis R., avait réuni un soir quelques camarades de collège. Nous buvions du punch et nous fumions en causant littérature, peinture, et en racontant de temps à autre quelques joyeusetés, ainsi que cela se pratique dans les réunions de jeunes gens. Tout à coup, la porte s'ouvre toute grande et un de mes bons amis d'enfance entre comme un ouragan. « Devinez d'où je viens ? » s'écrie-t-il aussitôt. « Je parie pour ma bile, » répond l'un. « Non, tu es trop gai. Tu viens d'emprunter de l'argent, d'enterrer ton oncle, ou de mettre ta montre chez ma tante, » reprend un autre. « Tu viens de te griser, » riposte un troisième, « et comme tu as senti le punch chez Louis, tu es venu pour recommencer. » « Vous n'y êtes point, je viens de P, en Normandie, où j'ai été passé 8 jours et d'où je rapporte un grand criminel de mes amis que je vous demande la permission de vous présenter. » À ces mots, il tira de sa poche une main décorchée. Cette main était affreuse, noire, sèche, très longue et comme crispée. Les muscles d'une force extraordinaire étaient retenus à l'intérieur et à l'extérieur par une lanière de peau parcheminée. Les ongles jaunes étroits étaient restés au bout des doigts. Tout cela sentait le scélérat d'une lieue. « Figurez-vous, dit mon ami, qu'on vendait l'autre jour des défroques d'un vieux sorcier bien connu dans toute la contrée. Il allait au sabbat tout le samedi sur un manche à balai, pratiquait la magie blanche et noire, donnait aux vaches du lait bleu et leur faisait porter la queue comme celle du compagnon de Saint-Antoine. Toujours est-il que ce vieux grédin avait une grande affection pour cette main, qui, disait-il, était celle d'un célèbre criminel supplicité en 1736 pour avoir jeté, la tête la première, dans un puits sa femme légitime, ce quoi faisant, je trouve qu'il n'avait pas tort, puis pendu au clocher de l'église, le curé qui l'avait marié. Après ce double exploit,
il était allé courir le monde, et dans sa carrière aussi courte que bien remplie, il avait détroussé 12 voyageurs, enfumé une 20aine de moines dans leur couvent, et fait un sérail d'un monastère de religieuses. « Mais que vas-tu faire de cette horreur ?» nous écrit Amnou. « Et par bleu, j'en ferai mon bouton de sonnette pour effrayer mes créanciers. » Mon ami, dit Henry Smith, grand anglais très flegmatique, je crois que cette main est tout simplement de la viande indienne conservée par le procédé nouveau. « Je te conseille d'en faire du bouillon. Ne raillez pas, messieurs, » reprit avec le plus grand sang-froid un étudiant en médecine, aux trois quarts gris. « Et toi, Pierre, si j'ai un conseil à te donner, fais enterrer chrétiennement ce débris humain, de crainte que son propriétaire ne vienne te le redemander. Et puis, elle a peut-être pris de mauvaises habitudes, cette main, car tu sais le proverbe « qui a tué, tuera ». Et qui a bu boira, reprit l'amphitryon. Là-dessus, il versa à l'étudiant un grand verre de punch. L'autre l'avala d'un seul trait et tomba ivre mort sous la table. Cette sortie fut accueillie par des rires formidables, et Pierre, élevant son verre et saluant la main, « Je bois, dit-il, à la prochaine visite de ton maître. » Puis on parla d'autre chose, et chacun rentra chez soi. Le lendemain, comme je pensais devant sa porte, j'entrai chez lui, et il était environ 2 heures. Je le trouvai lisant et fumant. « Eh bien, comment vas-tu ? » lui dis-je. « Très bien, » me répondit-il. « Et ta main ? » ?»« Ma main, tu as dû la voir à ma sonnette où je l'ai mise hier soir en entrant. » Mais à ce propos, figure-toi qu'un imbécile quelconque, sans doute pour me faire une mauvaise farce, est venu carillonner à ma porte vers minuit. J'ai demandé qui était là, mais comme personne ne me répondait, je me suis recouché et rendormi. En ce moment... On sonna, c'était le propriétaire, personnage grossier et fort impertinent. Il entra sans saluer. « Monsieur, dit-il à mon ami, je vous prie d'enlever immédiatement la charogne que vous avez pendue à votre cordon de sonnette, sans quoi je me verrai forcé de vous donner congé. Monsieur, reprit Pierre avec beaucoup de gravité, vous insultez une main qui ne le mérite pas. Sachez qu'elle a appartenu à un homme fort bien élevé. »
Le propriétaire tourna les talons et sortit comme s'il était entré. Pierre le suivit, décrocha sa main et l'attacha à la sonnette pendue de son alcôve. « Cela vaut mieux, dit cette main. Comme le frère, il faut mourir. » Des trappistes me donna des pensées sérieuses tous les soirs en m'endormant. Au bout d'une heure, je le quittai et je rentrai à mon domicile. Je dormis mal la nuit suivante. J'étais agité, nerveux. Plusieurs fois, je me réveillai en sursaut. Un moment même, je me figurais qu'un homme s'était introduit chez moi et je me levais pour regarder dans mes armoires et sous mon lit. Enfin, vers 6 heures du matin, comme je commençais à m'assoupir, un coup violent frappant à ma porte me fit sauter du lit. C'était le domestique de mon ami, à peine vêtu, pâle et tremblant. « Oh, monsieur » s'écria-t-il en sanglotant. « Mon pauvre maître, qu'on a assassiné !» Je m'habillai à la hâte et je courus chez Pierre. La maison était pleine de monde. On discutait, on s'agitait. C'était un mouvement incessant. Chacun pérodait, racontant et commençant l'événement de toutes les façons. Je parvins à grand-peine jusqu'à la chambre. La porte était gardée, je me nommais, on me laissait entrer. 4 agents de la police étaient debout au milieu, un carnet à la main. Ils examinaient, se parlaient de bas de temps en temps et écrivaient. 2 docteurs causaient près du lit sur lequel Pierre était étendu sans connaissance. Il n'était pas mort, mais il avait un aspect effrayant. Ses yeux démesurés, ouverts, ses prunelles dilatées, semblaient regarder fixement, avec un indicible, éprouvant une chose horrible et inconnue. Ses doigts étaient crispés. Son corps, à partir du menton, était recouvert d'un drap que je soulevais. Il portait au cou les marques de 5 doigts qui s'étaient profondément enfoncés dans la chair. Quelques gouttes de sang masculaient de sa chemise. En ce moment, une chose me frappa. Je regardais par hasard la sonnette de son alcôve. La main décorchée n'y était plus. Les médecins l'avaient sans doute enlevée pour ne point impressionner les personnes qui entreraient dans la chambre du blessé, car cette main était vraiment affreuse. Je m'informais ce point de ce qu'elle était devenue. Je coupe maintenant dans un journal du lendemain le récit du crime avec tous les détails que la police a pu procurer. Voici ce qu'on y lisait. Un attentat horrible a été commis hier sur la personne d'un jeune homme, Monsieur Pierre B., étudiant en droit, qui appartenait à une des meilleures familles de Normandie. Ce jeune homme était rentré chez lui vers 10 heures du soir. Il renvoya son domestique, le sieur Bouvin, en lui disant qu'il était fatigué et qu'il allait se mettre au lit. Vers minuit, cet homme fut réveillé tout à coup par la sonnette de son maître, qu'on agitait avec fureur. Il eut peur, alluma une lumière et attendit. La sonnette se tut environ 1 minute, puis reprit avec une telle force que le domestique aperçut de terreur se précipita hors de sa chambre et alla réveiller le concierge. Ce dernier courut avertir la police et au bout d'un quart d'heure environ, 2 agents enfonçaient la porte. Un spectacle horrible s'offrit à leurs yeux. Les meubles étaient renversés. Tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu entre la victime et le malfaiteur. Au milieu de la chambre, sur le dos, les membres raides de la face livide et les yeux effroyablement dilatés du jeune Pierre B. gisait sans mouvement. Il portait au cou les empreintes profondes de 5 doigts. Le rapport du docteur Bourdeau, appelé immédiatement, dit que l'agresseur devait être doté d'une force prodigieuse et avoir une main extraordinairement maigre et nerveuse, car les doigts qui y sont laissés dans le cou, comme 5 trous de balles, étaient presque rejoints à travers la chair. Rien ne peut faire soupçonner ce mobile de crime, ni quel peut en être l'auteur. La justice informe. On disait le lendemain dans le même journal, Monsieur Pierre B., la victime de l'effroyable attentat que nous racontons hier, a repris connaissance après 2 heures de soins assidus donnés par Monsieur le docteur Bourdeau. Sa vie n'est pas en danger, mais on craint fortement pour la raison, on n'a aucune trace du coupable. En effet, mon pauvre ami était fou. Pendant 7 mois, j'allais le voir tous les jours à l'Opsis, où nous l'avions placé, mais il ne recouvra pas une lueur de raison dans son délire. Il lui échappait des paroles étranges et comme tous les fous, il avait une idée fixe. Il se croyait toujours poursuivi par un spectre. Un jour, on vint me chercher en toute hâte et en me disant qu'il allait plus mal. Je le trouverai à l'agonie. Pendant 2 heures, il resta fort calme. Puis tout à coup, se dressant sur son lit malgré nos efforts, il s'écria en agitant les bras et comme en proie à une une épouvantable terreur. Prends-la, prends-la ! Il m'étrangle. Au secours, au secours ! Il fit deux fois le tour de la chambre en hurlant, puis il tomba mort, la face contre terre. Comme il était orphelin, je fus chargée de conduire son corps au petit village de P, en Normandie, où ses parents s'étaient enterrés. C'est de même le village qu'il venait le soir où nous avions trouvé buvant du punch chez Louis R, et où on nous avait présenté la main d'écorchée. Son corps fut enfermé dans un cercueil de plomb, et 4 jours après, je me promenais tristement avec le vieux curé qui l'avait donné ses premières leçons, dans le petit cimetière où l'on creusait sa tombe. Il faisait du temps magnifique, le ciel était bleu, ruisselait la lumière, les oiseaux chantaient dans les ronces du talus, où bien des fois, les enfants, tous deux, nous étions venus manger des mûres, et il nous semblait encore avoir se faufiler le long de la haie et se glisser par le petit trou que je connaissais, bien là-bas, au bout du terrain où l'on enterre les pauvres. Puis nous revenions à la maison, les joues et les lèvres noires du jus de fruits que nous avions mangé. Et je regardais les ronces, elles étaient recouvertes de mûres. Machinalement, j'en pris une et je la portais dans ma bouche. Le curé avait ouvert son bréviaire et marmottait tout bas ses airs remus. Et j'attendais au bout de l'allée la bêche des fossoyeurs qui creusaient la tombe. Tout à coup, ils nous appelèrent. Le curé ferma son livre et nous allâmes voir ce qu'ils nous voulaient. Ils avaient trouvé un cercueil. D'un coup de pioche, ils firent sauter le couvercle et nous aperçut un squelette démesurément long, couché sur le dos, qui, de son œil creux, semblait encore nous regarder et nous défier. J'éprouvais un malaise, et je ne sais pas pourquoi j'eus presque peur. « Tiens !» s'écria un des hommes. « Regardez donc, le gredin a un poignet coupé. Voilà sa main !» Et il ramassait à côté de son corps une grande main desséchée qu'il nous présenta. « Dis donc !» fit l'autre en riant. « On dirait qu'il te regarde et qu'il va te sauter à la gorge pour que tu lui rendes sa main. »« Allons, mes amis !» dit le curé. « Laissez les morts en paix et refermez ce cercueil. Nous creuserons autre part la tombe de ce pauvre monsieur Pierre. » Le lendemain, tout était fini, et je reprenais la route sur Paris après avoir laissé 50 francs au vieux curé pour dire des messes pour le repos de l'âme de celui que nous avions ainsi troublé la sépulture. J'espère que vous avez aimé cette nouvelle de la main d'écorchée.
Merci beaucoup de nous avoir écoutés, moi et mon groupe, les dramas. C'est la fin de cette émission. Si vous l'avez aimée, vous pouvez la réécouter sur le site de Globule Radio, globuleradio.chamonix.radio.
Nous vous souhaitons une bonne journée sur Globule Radio et on vous laisse avec Cardigan de Taylor Swift. Vintage tea, brand new phone, high heels on, cobblestones. When you are young, they assume you know nothing. Sequin smile, black lipstick, sensual.